Vous écoutez, on lit pour vous.
Les roues ont-ils besoin d'anesthésiens plus puissants? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans la presse. C'est vrai en ce qui concerne l'anesthésie gazeuse, mais cela a peu d'impact quand ils doivent recevoir des soins. Les gens aux cheveux roux ont besoin de 10 à 20% plus d'anesthésie gazeuse, explique Mohamed Badawi, chef de l'anesthésie au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM. Mais comme il y a déjà beaucoup de variations entre les patients sur les besoins d'anesthésie, il n'y a pas d'impact clinique. Être roux ne rend pas l'anesthésie plus risquée et n'impose pas, en pratique clinique, des doses systématiquement plus élevées. L'anesthésie est toujours ajustée pour chaque personne, selon sa réponse, son histoire clinique et le monitorage, pas selon la couleur des cheveux. De plus, les études montrant les besoins accrus des roux lors d'une anesthésie gazeuse sont basées sur une quantité beaucoup plus petite d'anesthésie, note le docteur Badawi. Cela limite les comparaisons possibles avec l'utilisation réelle de l'anesthésie sur les patients en salle d'opération. L'anesthésie gazeuse est utilisée initialement pour endormir un patient, puis on administre des anesthésiens liquides qui ne sont pas affectés par les gènes des personnes rousses. L'effet des opiacés ne varie pas non plus en fonction de la couleur des cheveux. La mutation génétique responsable des cheveux roux, appelée MC1R, est située dans une zone du cerveau associée à la sensibilité aux signaux nerveux, dit le docteur Badawi. On pense que cette zone du cerveau est impliquée dans la communication des signaux de douleur, précise-t-il. Dentisterie, l'un des chercheurs qui ont le plus étudié la question, et Daniel Sessler, de l'Université du Texas. C'est lui qui a publié en 2006, dans la revue Anesthesia, l'étude démontrant que les roux ont besoin de plus d'anesthésiens gazeux. J'ai décidé de tester cette hypothèse après que beaucoup de collègues m'eurent rapporté cette particularité des roux, explique l'anesthésiste texan. L'étude du Dr Sessler, qui a continué à examiner la question par la suite, portait seulement sur des femmes. Elle consistait à vérifier quelle quantité d'anesthésiant gazeux il fallait injecter dans le doigt d'une personne avant qu'il ne réagisse plus à une petite décharge électrique. La différence était assez faible et n'avait pas d'impact clinique, a-t-il conclu. Alors on n'a pas eu de financement pour vérifier avec d'autres types d'anesthésiens ou chez les hommes. A priori, ça ne concerne que les anesthésiens gazeux. Avant l'étude du Dr Sessler, un neuroscientifique de l'Université McGill, Jeffrey Mogill, avait montré que le gène MC1R n'est pas seulement responsable de la pigmentation, mais aussi de la transmission des signaux de douleur. Mais M. Mogill n'a pas poursuivi ses recherches, a-t-il répondu à la presse. La relative insensibilité des roux à l'anesthésie pose davantage problème chez le dentiste, selon le Dr Sessler. Nous avons fait des études sur l'évaluation de la douleur après des opérations générales et chez le dentiste, indique-t-il. Pour les opérations générales, il n'y a pas de différence entre les roux et les autres, mais en dentisterie, les roux rapportent plus de douleur. Cela vient peut-être du fait que les dentistes utilisent des anesthésiens gazeux à plus faible dose, qui ne causent pas de perte de conscience. Hugo Diaburo, doyen de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal, affirme cependant ne pas avoir entendu parler de problèmes avec l'anesthésie chez les patients roux. En savoir plus, source, Cosmopolitan, 2% proportion des humains qui ont les cheveux roux, 13% proportion des Écossais qui ont les cheveux roux. C'était « Les roux ont-ils besoin d'anesthésiens plus puissants ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 janvier 2026 dans La Presse.
Heureux dans son célibat. Un texte de Catherine Enfield, paru le 25 janvier 2026 dans La Presse. Noël est derrière nous. La Saint-Valentin arrive. Et ce sont deux périodes de pointe pour les ruptures amoureuses. Sachez ceci. Le célibat n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qui contribue à le rendre heureux? On fait le point avec des chercheurs qui l'étudient et des gens qui le vivent bien. La magie de Noël cache une réalité moins réjouissante, tout comme la Saint-Valentin. Ce sont des moments dans l'année où les couples ont tendance à se séparer. Ça force les gens à prendre une décision. Vais-je inviter cette personne à voir ma famille à Noël? Prévoit-on quelque chose pour la Saint-Valentin? Résume Geoff McDonald, professeur de psychologie sociale à l'Université de Toronto. En droit familial, janvier marque aussi le retour de la saison du divorce, avec un sommet de demandes en mars, selon les données de Statistique Canada. Une séparation amène son lot de stress, soit, mais le destin des célibataires est-il malheureux pour autant? Cette question intéresse le chercheur Geoff McDonald. À son laboratoire, son équipe s'est posé deux grandes questions à propos du célibat. D'abord, est-ce vrai qu'entrer en relation amoureuse rend plus heureux? Et qui sont les célibataires les plus heureux? À la première question, je dirais qu'en effet, pour la plupart des gens, il y a une augmentation du bien-être associé avec le fait de devenir en couple, convient Geoff McDonald, mais ça dépend de quelle partie de la vie on parle. Les gens qui trouvent un partenaire sont en général plus satisfaits de leur vie, mais la différence est somme toute assez petite. Ça n'empêche pas d'avoir toujours des problèmes au travail, des chicanes avec tes parents, illustre le professeur McDonald. Sur le plan sexuel, oui, dit-il, la satisfaction augmente en couple. Pour cause, on fait l'amour plus souvent. On s'imagine que le célibat, c'est comme dans Sex and the City, mais pour la plupart, ça ne se passe pas du tout comme ça, rappelle Geoff McDonald. Célibataire depuis 3 ans, Stéphane Bessette souligne qu'au-delà de la sexualité, c'est aussi la tendresse qui lui manque, les câlins, les fous rires, et le fait d'avoir un lien avec cette personne-là, de l'accueillir quand elle revient à la maison, raconte l'homme de 56 ans de Granby. En revanche, après avoir noué une relation amoureuse, les gens sont en général moins satisfaits d'un autre pan de leur vie. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Parce que vous finissez par consacrer moins de temps à vos passe-temps et à vos amis, résume le professeur McDonald. Grande variabilité. Le niveau de bien-être varie énormément d'un célibataire à l'autre, si bien qu'un certain pourcentage des gens seuls sont tout aussi heureux que la plus heureuse des personnes en couple, résume Geoff McDonald. Doctorante en psychologie à l'Université McGill, Katia Criddle abonde. Il existe, dit-elle, un stéréotype selon lequel toutes les personnes célibataires se sentent plus seules et sont moins satisfaites de leur vie que les gens en couple. Mais beaucoup de personnes célibataires sont très heureuses de leur vie. Les ingrédients du bonheur. D'abord, être bien entouré. Si vous avez de bonnes relations amicales et familiales, vous êtes heureux en tant que célibataire, mais ça ne vous donne pas forcément moins envie d'être en couple. nuance le professeur Geoff McDonald. En fait, dit-il, c'est surtout lorsque les célibataires ont une vie sexuelle satisfaisante que leur intérêt pour une relation amoureuse semble vraiment s'estomper. Sophia Philippidis, de Greenfield Park, vit pleinement son célibat. Je fais des activités avec mes deux enfants. Je prends soin de ma maman, je fais du tutorat auprès d'enfants allophones, énumère la femme de 56 ans. Modératrice sur un groupe Facebook réunissant des célibataires, Sophia organise aussi des événements. « Je suis vraiment occupée, résume-t-elle, mais si quelqu'un entre dans ma vie, je vais m'ajuster en conséquence. » La recherche tente à démontrer que les femmes vivent mieux avec le célibat que les hommes, possiblement en raison de leur propension à nouer des relations de proximité plus fortes. Après l'âge de 40 ans, la satisfaction envers le célibat augmente, tout comme celle d'être en couple, d'ailleurs. À partir du mi-temps de leur vie, les gens sont juste plus heureux de leur vie, peu importe leur situation, dit Geoff McDonald. Certains profils de personnes vivent bien avec le célibat. Le professeur pense aux gens qui ont tendance à fuir le conflit ou encore à ceux qui s'identifient comme asexuels. Le style d'attachement d'une personne influe également sur la façon de composer avec le célibat. Les gens qui ont un niveau élevé d'attachement sécure, confiance en soi et en l'autre, bonne régulation émotionnelle, etc., le vivent plutôt bien. C'est le cas de Stéphane Bessette. « Je ne m'écroule pas si je n'ai personne à côté de moi », résume-t-il. À l'opposé, les gens qui ont un attachement anxieux, peur du rejet, grand besoin de validation, détestent être célibataires. Ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, illustre Geoff McDonald. « Si seulement j'étais en couple, tout irait mieux. » Mais en réalité, ces personnes obtiennent aussi des résultats assez décevants dans leurs relations. Le célibat est, selon lui, une belle occasion pour ces personnes de forger leur force intérieure. Enfin, les gens qui ont un profil d'attachement évitant, inconfort avec l'intimité, vivent assez bien leur célibat, mais ils sont moins satisfaits de leur vie que ceux qui ont un attachement sécure. Avoir une idée claire. Katia Criddle a mis en lumière un autre critère du célibat heureux. Savoir ce qu'on attend d'une relation amoureuse. Dans une étude, elle a sondé quelques 200 participants de 18 à 30 ans pour savoir s'ils avaient une idée précise et stable de ce qu'ils recherchaient en amour. Le fait de le savoir prédisait moins de solitude et un plus grand bien-être, indique-t-elle. Sophia Philippidis sait ce qu'elle veut. De la complicité et de la confiance, dit-elle, vivre et laisser vivre. Quand on sait ce qu'on cherche, on risque moins de vivre des expériences négatives et on n'a plus de contrôle sur sa situation romantique, souligne Katia Criddle. Son conseil, ralentir, réfléchir et expérimenter. Et si vous ne voulez pas avoir un partenaire, sachez qu'il y a des milliers de personnes comme vous qui s'épanouissent dans le célibat, ajoute-t-elle. Geoff McDonald souligne pour sa part qu'une personne heureuse célibataire est généralement une personne heureuse en couple également. Tout repose sur des compétences fondamentales, apprendre à gérer ses propres émotions et être honnête avec soi-même, dit-il. Son conseil principal serait donc de s'engager dans ce travail intérieur et de profiter du célibat pour mener à bien les projets dont on rêve. En devenant cette personne plus intéressante et épanouie, vous serez non seulement plus heureux seul, mais aussi beaucoup plus attirant et compétent si vous décidez un jour de retourner à la vie à deux, conclut-il. C'était « Heureux dans son célibat », un texte de Catherine Enfield paru le 25 janvier 2026 dans La Presse.
Simon-Olivier Fecteau devient ambassadeur de la Société Alzheimer, Centre du Québec. un texte publié le 13 janvier 2026 dans le Nouvelliste. Pour la Société Alzheimer Centre du Québec, le choix de Simon-Olivier Fecteau allait de soi. Depuis 2018, il voit sa mère évoluer avec la maladie d'Alzheimer. Dès les premiers symptômes, l'organisme s'est dit présent pour soutenir sa famille. En parallèle, l'artiste de la scène a un message porteur à partager pour tous ceux qui connaissent un proche vivant avec un trouble neurocognitif. C'est quelqu'un d'accessible, d'humain et à l'écoute. Il y a beaucoup de honte associée à la maladie d'Alzheimer. Les gens ne veulent pas trop en parler et ont tendance à s'isoler. Le fait d'avoir une voix comme Simon Olivier peut permettre à des gens de briser le silence, de sortir de l'ombre et d'aller chercher de l'aide. Valérie Richer, directrice générale de la Société Alzheimer Centre du Québec. Les parents de Simon Olivier, José et Marcel, demeurent à Chesterville dans leur maison. Son père, âgé de 98 ans, est proche aidant de sa mère. « Mon père est une force de la nature et il peut se permettre d'aider ma mère à temps plein. » Et il a la santé pour le faire. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ça. Fait savoir le comédien réalisateur. Il conseille d'ailleurs aux gens de donner de leur temps à un proche à la hauteur de leur capacité. Et il ne faut pas se sentir coupable si on ne peut pas en donner plus. C'est beaucoup de travail de s'occuper d'un proche. Le comédien et réalisateur a notamment suivi une formation offerte par la Société Alzheimer Centre du Québec portant sur les meilleures façons d'interagir avec une personne vivant avec un trouble neurocognitif à différents stades de son évolution. Cette démarche lui a permis de mieux comprendre la maladie. Outre les apprentissages, il a pu voir que sa famille n'est pas la seule touchée et que beaucoup de gens passent à travers les défis qui en découlent. Ça diminue l'anxiété de savoir que ma famille n'est pas seule à vivre ça. Et quand on comprend quelque chose, on en a moins peur, commente-t-il. Simon Olivier a diffusé au printemps dernier une touchante vidéo sur ses médias sociaux. Il y explique que sa mère ne reconnaît plus ses proches. Un peu plus loin dans la capsule, cette dernière a un bref moment de lucidité et d'éveil et reconnaît sa sœur Lucie aussi malade. Un moment de tendresse fort en émotion s'ensuit. Le million de visionnements a été atteint. Pour les familles et les gens qui ont des parents ou des amis qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de monde qui est dans cette situation-là. Ce n'est pas facile pour personne, mais peut-être que si on sait qu'on est une communauté, ce sera un peu moins dur, dit-il, au même titre qu'il s'est senti accompagné lorsqu'il a eu le soutien de la Société Alzheimer Centre du Québec. Oui, la vie change avec l'Alzheimer, mais ce n'est pas la fin. Malgré tout, il y a des moments positifs. Il faut miser là-dessus. Conclut le nouvel ambassadeur. Activité à venir. La Société Alzheimer Centre du Québec célèbre en 2025-2026 son 30e anniversaire. Un cocktail se tiendra le jeudi 26 mars au club de golf Victoriaville pour clore les festivités. La traditionnelle marche pour l'Alzheimer IG Gestion du patrimoine aura lieu quant à elle le dimanche 31 mai au village québécois d'antan de Drummondville. D'ici là, en janvier, l'organisme souligne le mois de la sensibilisation à l'Alzheimer. Le thème de cette année est « N'oublions personne ». Il cible trois axes, soit en parler tôt, repérer tôt et agir tôt. L'intervention précoce est très importante pour permettre aux gens d'avoir de la dignité et de faire des choix éclairés. Savoir tôt permet à la personne de réfléchir à ce qu'elle souhaite pour la suite, en parler à ses proches et se préparer, indique Valérie Richer. La campagne « N'oublions personne », portée par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, FQSA, et ses 20 sociétés régionales, invite à ouvrir le dialogue pour que les personnes vivant avec la maladie et leurs proches puissent accéder plus tôt au soutien et aux services. Depuis 1995, la Société Alzheimer Centre du Québec s'engage à améliorer le quotidien des personnes du Centre du Québec vivant avec la maladie d'Alzheimer et autres troubles neurocognitifs ainsi que celui de leurs personnes proches aidantes. Tout au long de leur parcours, par un accueil, un accompagnement chaleureux et la création d'un environnement de soutien, l'organisme favorise la bienveillance, le respect, l'ouverture et la collaboration avec les ressources appropriées. C'était Simon-Olivier Fecteau devient ambassadeur de la Société Alzheimer Centre du Québec. Un texte publié le 13 janvier 2026 dans le Nouvelliste.
Chiffrer l'immigration ou écouter les personnes.
Le pouvoir des récits de vie. Un texte de Consuelo Vázquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation. Les débats sur l'immigration, qui défraient les manchettes québécoises et internationales, abordent fréquemment le sujet à travers les chiffres. Comme tout dossier politique, l'immigration soulève bien entendu des défis logistiques, mais aussi des réalités humaines. Considérant la prévalence d'une approche technique de la question migratoire, nous déplorons le peu de place accordée collectivement aux humains derrière les indices numériques, à leur parcours, à leurs histoires. Derrière ces chiffres se trouvent des trajectoires particulières, faites d'espoir, de rupture et d'ajustement. C'est ce que nous cherchons à mettre en lumière dans le projet de recherche « Entraide dans les marges » à l'Université du Québec à Montréal, qui documente les formes d'entraide émergentes dans des contextes de précarité comme celui associé à l'immigration. Pour réintroduire l'humain dans un débat largement dominé par des considérations quantitatives et objectives, nous nous appuyons notamment sur la notion d'escrevivencia, qui désigne un acte d'autonarration politique permettant aux personnes marginalisées de raconter elles-mêmes leur expérience depuis les marges et ainsi de se réinscrire dans l'histoire. L'escrevivencia se distingue à cet égard de l'autobiographie classique en ce qu'elle porte explicitement une visée politique et collective. Elle émane toujours de personnes subalternisées dont la prise de parole vise à transformer le regard social envers leur communauté et à revendiquer une place dans l'espace public. Escrevivencia, réhumanisée par l'autonarration. L'escrevivencia, concept forgé par la romancière brésilienne Conceição Evaristo en 1996, désigne l'acte d'écrire vivre, une écriture où la vie devient affirmation politique et production de savoir. Ancrée dans les traditions afro-diasporiques, elle souligne la mémoire collective, la réappropriation des racines et l'identité communautaire. Écrire, ici, c'est résister à la « desmémoire » que les récits de ceux en situation de pouvoir imposent lorsqu'ils parlent en notre nom, nous instrumentalisent ou tout simplement ne parlent jamais de nous. L'écriture vient dans ce contexte transformer la douleur en force créatrice, l'oubli en volonté de se faire entendre. Née dans les marges, l'escrevivencia permet aux sujets historiquement réduits au silence, notamment les femmes noires, de passer de l'objectivité à la subjectivité. Par l'autonarration, elle reconstitue le lien entre corps, mémoire et parole, redonnant humanité à celles et ceux que l'histoire a souvent effacés ou condamnés. L'écrivaine afro-brésilienne Conceição Evaristo est une figure importante de l'escrevivencia. Dans son conte « O Espelho Opaco de Ceni », écrit en portugais et publié en 2022, Evaristo relate l'histoire de Ceni, une femme noire incapable d'apercevoir son reflet dans le miroir. Au terme du récit, devant les miroirs dorés de sa petite fille, elle parvient enfin à se reconnaître avec une clarté ancestrale. En saisissant son propre reflet, celui d'une lignée de femmes noires longtemps déniées, elle transforme l'image en mémoire vivante. Ce geste d'auto-reconnaissance, partagé par sa petite fille et toutes leurs ascendantes, reconstitue le lien entre corps, temps et parole, un passage de l'objectivité imposée à la subjectivité réaffirmée. Dans le contexte migratoire, cette pratique acquiert une portée universelle. Raconter devient un acte de guérison et d'émancipation. Les autonarrations se présentent comme des discours minoritaires assumés, mais revendiquant la possibilité de pouvoir parler en retour afin de réinscrire tant l'histoire subjective que collective. L'escrevivencia devient ainsi un geste collectif de reconstruction, un espace pour recréer le monde depuis les marges. Je ne veux pas être traité comme un numéro. L'expérience de Cecilia. Parmi les récits oraux recueillis dans le cadre de notre projet « Entraide dans les marges », celui de Cecilia, un pseudonyme, arrivé du Mexique il y a 2 ans, illustre la portée de l'escrevivencia dans le contexte migratoire. Enseignante de mathématiques dans son pays, mère d'un jeune enfant, elle amorce au Québec une recherche d'emploi qui la confronte à de multiples obstacles linguistiques et administratifs. Elle raconte qu'un premier organisme d'aide lui aurait conseillé, allant à l'encontre des principes interculturalistes québécois, d'oublier tout ce qu'elle savait, comme si son expérience, sa formation et son identité professionnelle n'avaient plus aucune valeur ici. « Une claque dans la figure », dira-t-elle plus tard. Heureusement, son parcours ne s'arrête pas à cette blessure. Une intervenante, elle-même migrante, puis un enseignant de français dans un centre communautaire, devenu depuis un ami proche, l'ont accueillie et soutenue. « Lors de ces rencontres, dit-elle, j'ai été traitée comme une personne, pas comme un numéro. » Peu à peu, elle reconstruit sa confiance et redéfinit sa trajectoire professionnelle. Aujourd'hui, elle travaille au sein d'un organisme communautaire où elle accompagne des travailleurs internationaux temporaires en les informant de leurs droits et des ressources disponibles. Pour Cécilia, raconter son histoire l'a amenée à réaliser que le problème n'était pas en moi, mais, en fait, dans le regard des autres. À son tour, elle souhaite soutenir d'autres femmes migrantes pour leur éviter, si possible, de traverser seules les mêmes épreuves. Des initiatives inspirantes. D'autres initiatives s'inscrivent dans cette volonté de donner place aux autonarrations des personnes migrantes et réfugiées. C'est le cas de Jade Bédard et de Christina Bastien, fondatrices de l'OBNL Histoire d'espoir, avec lesquelles nous collaborons dans le cadre du projet Entraide dans les marges. Par la diffusion de récits de personnes ayant immigré au Québec, elles offrent un espace d'expression où se croisent résilience, courage et espoir. Ces témoignages visent à rejoindre d'autres personnes ayant un vécu semblable, tout en sensibilisant la société d'accueil à la pluralité des trajectoires. De la même manière, Paul Thom, réalisateur du documentaire « Bagages », avec qui nous collaborons aussi, explore le pouvoir de la narration collective à travers le récit de jeunes nouvellement arrivés au Québec. Provenant de pays aussi divers que le Brésil, la Chine, l'Ukraine, la Colombie, ces jeunes racontent leur parcours migratoire et leur intégration via des ateliers d'art dramatique. Ces deux initiatives, parmi tant d'autres, nous rappellent qu'au-delà des chiffres et des slogans, les histoires vécues, fragiles, puissantes et multiples, comptent également, et qu'elles ont le pouvoir de tisser des liens et de transformer les imaginaires. C'était « Chiffrer l'immigration ou écouter les personnes, le pouvoir des récits de vie ». Un texte de Consuelo Vasquez, Camila Goytisolo de Sainz et Wang Cam Nguyen, paru le 28 janvier 2026 dans La Conversation.